Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors pour commencer cette revue de presse, je crois que le Figaro a des idées pour fêter l'anniversaire de Transistor.
Tout à fait Mathias, le supplément Le Figaro et vous nous proposait ce matin le guide illustré de l'amateur de champagne à Londres. Une situation qui bien sûr nous concerne tous dans ce studio. Non allez, blague à part, la presse s'intéresse beaucoup à ce qui reste du Parti Socialiste aujourd'hui. On parle de Valls bien sûr et le monde de s'interroger. Manuel Valls peut-il rassembler la gauche ? Pour le premier analyste Finchelstein de la Fondation Jean Jaurès, ça va être compliqué. Il souligne le triple défi à relever pour qui voudra rassembler la gauche, défi psychologique, que tout le monde arrête de croire, je cite, que « sa singularité est irréductible à tout compromis », défi idéologique, renoué avec les questions de fond, et défi politique, réguler toutes ces candidatures qui pullulent de partout. On glisse au passage que, pour la refondation idéologique, la Fondation Jaurès peut aider un bon, voilà, juste comme ça en passant. Pour le second analyste, Marlière, prof de Sciences Po à Londres, ben ça va être encore plus compliqué. Pour lui, il était surtout, je cite, « surréaliste d'entendre Valls s'auto-introniser candidat de la réconciliation » et d'ajouter textuellement qu'on rit jaune quand le champion du 49-3 à mémoire courte affirme qu'on ne gouverne pas à coup de décret. Bref, pour reprendre la caricature en une de Courrier International cette semaine, la gauche cherche leader, de gauche de préférence.
Et en fait, on trouve un contrepoint un peu plus positif dans Le Figaro.
Ouais, exactement, dans un portrait de Valls en Challenger sous la plume de Guillaume Tabar. L'éditorialiste décrit la mue de l'ancien Premier ministre, du dynamiteur des tabous de la gauche, j'aurais peut-être dit principe plutôt que tabou, personnellement. Bref, une mue vitesse grand V parce que la gauche est en position de Challenger en 2017. Et parce que Valls lui-même est challenger dans son parti. L'édito se conclut de manière assez encourageante pour lui. Conjurer le tout sauf Valls, ce sera transformer une faiblesse en défi. Fin de citation.
Et qu'en est-il de la relation Hollande-Valls alors ?
Eh ben, au Canard enchaîné, on insiste plutôt sur l'armistice entre les deux depuis le 5 décembre. C'était dans le numéro sorti hier. Mais tant qu'à faire d'avoir le canard dans les mains, je préfère vous citer l'interview imaginaire de Cazeneuve par Frédéric Pagès. Quand on lui demande « Trouvez-vous la personnalité du président Hollande opaque ?», ce pseudo Cazeneuve répondrait « Ah, ténébreuse. C'est un congrès socialiste à lui tout seul. Son cerveau est plein de coulisses et de sous-commissions. Il doit faire en permanence la synthèse entre ses courants intérieurs. » Ah bah, d'où son incroyable discours d'abdication. Il a fait l'éloge de son bilan pendant 10 minutes pour conclure qu'il renonçait. Ah, il s'est mis en minorité tout seul, hein.
Et le journal qui consacre tout son numéro hebdomadaire à Hollande, c'est le 1.
Oui, avec comme une « Hollande, merci pour ce moment ». Le numéro est parsemé de petites caricatures toutes mignonnes, genre Hollande en petit Nicolas ou en Calimero. Une chronique a surtout retenu mon attention, celle d'Alain Gérard Slama. L'essayiste s'interroge sur ce décor vide, cette mine défaite, ses regrets sur la déchéance de nationalité. Et il a même des soupçons. Au fond, pour Hollande, assumer son, je cite, « maigre bilan », se faire bouc émissaire et homme seul contre tous. Est-ce que ça ne serait pas un peu retourner la situation au regard de l'histoire, pour reprendre les mots de Slama ? Est-ce que ça n'est pas, je cite, par contraste, mettre en relief l'étendue des services rendus ? Il y a peut-être de quoi se poser la question, effectivement. J'ajoute quand même que l'illustration du 1 est très perturbante cette semaine. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un espèce de Hollande vers de terre.
Oui, enfin, clairement, on dirait plutôt un Hollande spermatozoïde.
Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que ça nous amène tout droit sur la une de Libération ce matin. PMA, GPA, adoption... Allons enfants. Bon alors, chez Livet, ils étaient très en forme aujourd'hui niveau titre d'article, entre le « infertilité, le coup de semence » et le « pollution, tous, ensemble ». Voilà, je pense que ça se passe un petit peu de commentaires. Bon, Maëlys vous parlait dans son journal tout à l'heure de la pénalisation des sites de désinformation anti-IVG. Le Monde a justement consacré une intéressante petite enquête au site IVG.net, premier site référencé par Google, un site avec numéro vert et tout le tintouin. Oui, sauf que ce site, qui est mieux référencé que le site gouvernemental tout récent du coup, ce site a été créé par un entrepreneur, Renaissantis, et mis au nom de sa femme, Marie-Philippe. Avec leur association, le couple a déjà acheté des noms de domaine comme ivg-medicamenteuse.com ou plus original ivg-info.biz. Leur service d'écoute semble assez biaisé et les témoignages qu'ils publient sur l'avortement sont, curieusement, essentiellement négatifs. Quant à leur financement par des dons, ils ne veulent juste pas pas en parler. En tout cas, l'article conclut sur la nécessité, pour le gouvernement comme pour les associations, de bien mieux gérer leur référencement sur Internet, en plus des problématiques de pénalisation de ce site de désinformation.
Et pour terminer cette revue de presse, une controverse autour d'un photographe.
Ouais, comme ça, ça fera une petite transition avec le journal de la culture à venir juste après. Alors, je voudrais épingler ici un article de Libé. Bon, en gros, on y parle d'Hamilton, photographe anglais, mort le 25 novembre dernier. Il est connu pour ses photos érotisées de filles prépubères, complètement normales dans les années 80 et complètement scandaleuses aujourd'hui. Disons-le franchement, il est connu pour des accusations de viol contre lui et pour sa pédophilie. Jusque-là, je n'ai pas de problème avec l'article, mais vraiment la conclusion, c'est juste pas possible et je pique mon coup de gueule. Dire, comme le fait la journaliste, que, je cite, « la plupart des gamines n'ont besoin de personne pour poster des photos d'elles dans toutes les positions possibles aujourd'hui », eh bien dire ça, c'est faux, ça ne repose sur aucune donnée chiffrée. Oui, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut protéger les adolescents sur Internet, mais cela ne doit pas se faire en les culpabilisant, eux, plutôt que leurs prédateurs potentiels. Parce que la violence sexiste et sexuelle, dans ce genre de cas de violence, le coupable, c'est toujours l'agresseur. Voilà pour aujourd'hui, Mathias.
Merci Marie pour cette revue de presse riche et engagée, si je puis dire. Et alors, de l'actualité à la culture, il n'y a qu'à pas. Et nous le franchissons en compagnie de Clémence et d'une autre Marie. Bonjour à vous deux.
Bonjour Mathias.